La Bible, ouvrez-la à l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2. Nous continuons notre étude de l'épître aux Colossiens. Et donc nous arrivons au chapitre 2 et au verset 8 à 15 aujourd'hui, qui fait partie d'une section un peu plus grande. Quentin, je t'ai pas entendu chanter aujourd'hui. Ça va?
Si,
la gorge?
Un petit peu, mais ouais.
Pas aussi fort que d'habitude. Ça me manquait, le soutien, là. Ok, donc... bien. Donc, nous lisons à partir du verset 8. Allez, je vais lire jusqu'à la fin du chapitre pour avoir bien le contexte. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir spirituel. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair par la circoncision de Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Donc l'acte, c'est la loi de Dieu qui nous condamnait. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs donc du monde démoniaque, les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat, tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Donc, il est en train de faire allusion au faux enseignement qui est entré dans l'église de Colosse, d'accord, et qui prescrit que les gens doivent revenir en arrière et célébrer certains rites juifs de l'Ancien Testament. Que personne, sous prétexte d'humilité ou d'un culte des anges, parce qu'il y avait ça, cette erreur aussi, il y avait un culte soit aux anges ou par les anges, probablement aux anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course, un tel homme s'abandonne à des visions. Donc il y avait un élément de mysticisme en se vantant de ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Au lieu de s'attacher au chef, donc Christ, par qui tout le corps, donc l'Église, soutenu et rendu cohérent par les jointures et par les articulations, ça veut dire chaque membre, nous, nous sommes les articulations, les jointures, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Encore, ça faisait partie de l'erreur qui est entrée dans l'Église. Toute chose vouée à la corruption par l'usage, parce que ce sont des choses matérielles, qu'on en fait. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, c'est-à-dire culte que tu inventes toi-même. Humilité et rigueur pour le corps, parce qu'il y avait un élément d'ascétisme dans cette erreur, hein, on se faisait mal au corps. Et rigueur pour le corps, mais qui ne mérite pas d'honneur et contribue à la satisfaction de la chair. Je vous rappelle donc que cette erreur est entrée dans l'église de Colosse, des enseignants qui venaient dire que oui, on est sauvé par Christ, c'est cela. Mais Christ ne vous donne que le début. Il vous met en règle avec Dieu, mais pour arriver à la plénitude, il vous faut Christ plus. Et le plus, c'était du mysticisme, ces visions des anges, le contact soi-disant avec des anges, qui étaient pour eux des intermédiaires nécessaires. Christ n'était pas le seul médiateur, mais il fallait passer par des anges aussi pour avoir certaines expériences, pour arriver à la plénitude de la vie chrétienne. Donc il y avait le mysticisme, il y avait l'ascétisme. Donc il fallait se priver, ne pas toucher ceci, ne pas manger cela. Et donc cela était important. Donc il y avait le cérémonialisme. Donc ils sont revenus à devoir garder certaines saisons, certains jours, certaines fêtes juives. Et par tous ces moyens, les faux enseignants dans l'église de Colosse disaient que c'est là la source de la plénitude de la vie chrétienne. Et dans cette épître, Paul a pour tâche de dire que si vous ajoutez à Christ, cette addition égale à une soustraction. Parce que quand vous essayez d'ajouter quelque chose à Christ, vous allez perdre. Parce qu'en lui se trouve toute la plénitude de la divinité et en lui vous êtes complet. Donc, ça c'est pour mettre les visiteurs à jour avec nous. Mais dans la section où nous sommes maintenant, il y a une exhortation et puis un pourquoi et un quoi. C'est très facile. L'exhortation se trouve au verset 8. On le lit encore. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires et non selon Christ. Ça, c'est l'exhortation. Du verset 9 au verset 15, il y a le pourquoi. Pourquoi vous ne devez pas écouter quelqu'un qui vous parle de Christ plus, qui vous donne une philosophie qui n'est pas selon Christ. Et les versets 9 à 15 nous donne la réponse à cette question pourquoi, en nous disant tout simplement que en lui vous avez tout. Et il nous détaille ça. Et nous allons voir cela. Il n'essaie pas de démanteler le faux enseignement planche par planche en disant ça c'est une erreur parce que non, il va inonder ses auditeurs avec la suffisance de Christ. Plutôt d'examiner l'erreur, il va dire, vous avez tellement en Christ, pourquoi est-ce que vous allez ailleurs? Et n'est-ce pas, nous avons ce besoin parce que nous sommes tentés de faire la même chose. On va en parler tout à l'heure. Et puis dans les versets 16 à 23, 23, vous avez le croix. Donc, c'est-à-dire, de quoi est-ce que vous devez faire attention? De quoi est-ce que vous devez vous mettre en garde? Donc, il revient un peu au verset 8 et il explique en détail quelle est cette erreur et pourquoi est-ce qu'elle est vaine. Elle n'aide pas à surmonter la chair, mais elle contribue à la chair. Quand vous empruntez ces voies de mysticisme, d'ascétisme, et ainsi de suite. Sans doute, chacun de nous, en tant que chrétien, nous sommes confrontés à des formes différentes qu'ici, mais des formes de ces choses-là. Ok, on y va. Donc, le premier point ce matin, c'est que vous ne devez pas, pardon, attention, ne devenez pas esclaves des systèmes de délivrance spirituelle qui ne sont pas selon Christ. Et ça, c'est le verset 8, comme nous avons vu. Ces systèmes rendent vraiment esclaves. Une fois que vous êtes dedans, c'est difficile de vous convaincre vous-même que vous n'avez pas besoin de ça. Aujourd'hui, notre société est inondée de systèmes pour vous donner le bien-être, n'est-ce pas? Il y a la sophrologie, il y a le yoga, il y a certains régimes maintenant qui deviennent carrément religieux. Parce que par ces régimes, vous allez pouvoir vivre plus longtemps, vie éternelle en miniature, vous allez pouvoir être bien, c'est le régime qui va vous aider à ne plus être irritable ou ceci ou cela, donc ça va, c'est un moyen de surmonter le péché. Et donc ces systèmes sont compliqués et pour garder le régime, il faut vraiment, tu peux presque pas manger avec des gens normaux. Parce que tu ne peux pas manger ceci, tu peux manger cela, mais tu dois manger à tel moment. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est en train d'inonder la société aujourd'hui. Quel que soit le système, et ça c'est des systèmes non religieux, il y a la psychologie qui vient vous dire, le Christ, ayez votre foi, c'est bon, mais si vous voulez vraiment surmonter vos problèmes personnels, et allez bien dans vos relations personnelles, il vous faut aussi du Freud ou de la psychologie d'un tel ou d'une telle. N'est-ce pas? Et ça vient comme un complément nécessaire à Christ qui n'est pas suffisant. Et donc Paul dit, attention, prenez garde. Au verset 8, il utilise un mot fort. Et je l'utilise avec vous, faites extrêmement attention. Il y a des bons conseils dans la psychologie, mais le problème, c'est que le système fonctionne sans Christ et non pas selon Christ. Et vous met dans tout un truc où vous n'avez pas besoin de Christ. Ça, c'est le message. Pour surmonter ce problème, cette inquiétude, cet esclavage, cette addiction, vous n'avez pas besoin de Jésus-Christ. Il n'est pas le libérateur. Vous avez besoin de tels principes élémentaires. Et même si certains des principes sont vrais, détachés de Christ, divorcés de Christ, ils sont dénaturés. Parce que en Christ, j'utilise le même principe, mais très différemment. Dans une dépendance de lui et de sa croix, de ce qu'il a accompli et mon union avec lui, complètement différent. Voilà, donc il donne cette exhortation forte et il dit que, dans le verset 8, si vous regardez, il dit que personne ne vous fasse sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Alors, la philosophie ici, c'est un mot qui est employé à l'époque, non pas pour parler de Kant ou de je ne sais pas qui, mais c'est juste un système de pensée. D'accord? Un système de pensée. Donc, qui est une vaine tromperie, il faudrait presque traduire. Qui est vaine, parce que ça ne marche pas, et qui trompe. Pourquoi est-ce que ça vous trompe? Parce que ça vous donne l'impression que Christ n'est pas suffisant. Et il continue pour dire selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Donc ces systèmes, on peut les détecter par le fait qu'ils ne font pas d'allusion à Jésus-Christ. Ils sont basés sur une tradition purement humaine et pas sur la révélation biblique. Et aussi parce qu'ils se basent sur ce qu'on traduit ici, les principes élémentaires du monde. Mais c'est quoi les principes élémentaires du monde? Alors, excusez-moi, mais c'est en grec, c'est le mot stoïkia. Alors, ce mot veut dire un élément fondamental de quelque chose. C'est tiré d'une racine qui parle de trucs dans une série. Et le mot était utilisé, par exemple, pour parler des lettres de l'alphabet, ou des mu notes musicales, ou des propositions, ou des, pa pardon, des thèses de géométrie. Mais les théologiens débattent, mais qu'est-ce que les stoïcas du monde, ou du cosmos, qu'est-ce que ça veut dire ici? Parce qu'on pouvait utiliser ce mot dans beaucoup de domaines. Et donc les théologiens ont trois idées différentes. Il y en a qui disent que les stoïciens, c'est les êtres angéliques dans le monde spirituel. D'accord? N'agissez pas dans un système de pensée qui marche selon les esprits mauvais du monde. Pourquoi? Parce que partout dans l'épître aux Colossiens, Paul parle de principautés, de pouvoir, et il semble que, oui, il est évident qu'ils sont en train de faire un culte attaché aux anges, et Paul est en train de dire ne faites pas ça. Deuxièmement, certains théologiens pensent que stoïka, c'est simplement les principes élémentaires du monde, des principes vraiment de base de quelque chose. Par exemple, si tu fais le bien, tu recevras le bien. Et certains pensent que Paul est en train de parler des principes élémentaires de toutes les religions, hein, des choses vraiment basiques. Je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Troisième possibilité, certains disent que le stoïka parle des éléments physiques du monde. Alors, souvent, le mot était employé en dehors de la Bible à l'époque pour cela. Rappelez-vous que les gens dans l'Antiquité pensaient que le monde était fait de quatre éléments: la terre, le feu, l'air et l'eau. Mais attention, ils pensaient aussi que derrière ces éléments basiques du monde, il y avait des puissances. N'est-ce pas? Et aussi dans ces stoïcas, ces éléments du monde matériel, il y a les planètes. À l'époque, on pensait que les planètes déterminaient la vie des hommes. Parce que derrière ces planètes, ces étoiles, il y avait des puissances spirituelles. Donc, il me semble que, en fait, les trois idées des théologiens sont justes. Et je le dirais comme ceci. Les Colossiens, les faux enseignants au moins, pensaient que pour arriver à la plénitude, il fallait obéir à certains principes élémentaires, garder ce jour, ce sabbat, et puis vous allez voir que toutes ces règles élémentaires étaient justement en rapport avec des choses matérielles. Ne touche pas, ne mange pas, c'est des choses matérielles, ok? Et les saisons qu'il devait garder, les jours qu'il devait garder, c'est par rapport aux planètes. Si vous voyez, la nouvelle lune juive, c'est par rapport aux planètes, n'est-ce pas? C'est la pleine lune. Le sabbat, toutes ces choses. Et donc, il me semble que ces Colossiens sont tentés maintenant de penser que en suivant ces principes élémentaires par rapport aux choses élémentaires du monde, les saisons, les choses matérielles, ils sont en contact avec les puissances et ces anges. Et ils sont en train de puiser dans la puissance qu'ils ont pour vivre la vie chrétienne. Ça vous semble bizarre, peut-être, mais allez voir quelqu'un qui croit dans l'astrologie. N'est-ce pas un peu pareil? Cette personne pense qu'il y a une puissance spirituelle, impersonnelle, derrière les planètes et la manière dont ils sont configurés, de sorte que si je suis un tel signe de l'astrologie, alors ma vie est un peu réglée selon la planète et selon les choses. Vous voyez, il y a une combinaison des choses matérielles, élémentaires et des puissances. C'est un peu comme ça que les faux enseignants parlaient dans l'église de Colosse. Mais ce qui est important pour vous, c'est que tout cela, dans quelque forme que ce soit, les dévie et vous dévierait, vous les distrait de Jésus-Christ. Donc nous abordons le deuxième point. Je ne vais pas passer plus longtemps, mais il faut que vous sachiez que Paul utilise le mot stoïkia, seulement quatre fois dans le Nouveau Testament, deux fois en Colosse et deux fois en Galate. Et si vous rassemblez ces fois, il me semble que l'explication que je vous donne tient debout. En tout cas, ce n'est pas loin. Nous n'avons pas besoin de comprendre exactement le problème parce que la forme va toujours changer, n'est-ce pas? Dans certaines de nos églises évangéliques, on a des choses un peu pareilles. Des choses qui, Christ vous donne au début de la vie chrétienne, mais après ça, vous avez besoin de, n'est-ce pas? Telle chose pour arriver à la plénitude. Ok, donc, deuxième point. Pourquoi vous ne devez pas vous laisser captiver? Et la réponse est que vous avez tout en Christ. Lisons le verset 9 et 10. Dieu nous dit, car en lui, Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous avez tout pleinement en lui, dans votre union avec lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Est-ce que vous savez qui est votre Seigneur? Quelle est son identité? La Bible nous dit qu'il est celui en qui habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Et ce mot plénitude signifie, par exemple, la terre est au Seigneur et toute sa plénitude. Donc la plénitude signifie tout ce qui appartient à un truc. La terre est au Seigneur et toute sa plénitude, tout ce qui est dedans. Ça veut dire qu'en Christ habitent toutes les qualités, toute la puissance, tous les attributs, tout ce que Dieu est en Jésus-Christ, corporellement. Il a plu à Dieu depuis l'éternité, Christ, le Fils de Dieu, était Dieu pleinement, mais il a pris un corps et une nature humaine afin que cette plénitude incroyable de Dieu, plénitude de sagesse, de bonté, de puissance, habite dans l'humanité. Habite dans l'humanité pour que vous y ayez accès. Parce que vous n'avez aucune possibilité de recevoir quelque chose directement de Dieu, puisque vous êtes pécheur. C'est impossible. Dieu ne peut rien vous donner. Donc, il a fait un autre venir un homme à qui il pouvait donner. Christ est venu, il a accompli le salut, il vous a accroché à sa ceinture, il est mort comme votre représentant. Tout ce qu'il subit, il subit pour vous, à votre place, et tout ce qu'il gagne pour son humanité, tout ce qu'il gagne pour lui en tant qu'homme, il le gagne pour vous. Et une fois que vous vous convertissez, il vous communique tout ce qu'il possède dans son humanité ressuscitée auprès du Père. Il vous le communique par le Saint-Esprit. Mais il faut qu'il le gagne pour lui-même en tant qu'homme avant, afin de pouvoir vous le donner. C'est pour cela que Paul met l'accent sur le fait que en lui habite toute la divinité corporellement. Le mot demeurer ici, c'est un mot qui signifie non pas rester de manière passagère, mais définitivement. Donc Paul veut que vous compreniez en tant que chrétien que Dieu a fait habiter en Christ pour vous toute la plénitude de Dieu définitivement. Jésus-Christ sera toujours, pendant toute l'éternité, homme. Et Dieu, mais homme. Et vous êtes unis à son humanité. Et comme Jean dit dans son évangile, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle et la parole est devenue chair. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire comme le Fils unique venu du Père. Écoutez bien, et nous avons, dit Jean, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Ça, c'est la vie chrétienne, chers amis, que nous apprenons à recevoir de sa plénitude une grâce remplace une autre grâce. Cela est tellement difficile à comprendre et juger que Paul prie au début de cette épître, ô Dieu, donne-leur un esprit de sagesse pour comprendre ce mystère qui est Christ en vous. L'espérance de la gloire. Donc, si vous voulez, Paul veut que nous comprenions, que vous compreniez, que en mettant toute sa divinité en Christ, il a mis toute sa plénitude en contact avec l'humanité, avec nous qui sommes unis à Christ. Et que nous avons donc, dit-il, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement où? En lui. Mais c'est en lui. Mais vous, vous êtes unis à lui, selon la Bible, comme un cep, un serment dans le cep. Vous êtes unis à Christ si vous êtes croyant. Je vous donne une petite illustration qui n'est pas vraie, mais imaginons que un président d'un pays, un homme honorable et bon et noble, perd une de ses mains. Excusez-moi, c'est pas mon illustration, vous allez peut-être trouver ça vulgaire ou quoi, mais parfois les illustrations sont imparfaites. Mais donc, il y avait dans ce pays où existait la peine capitale un meurtrier. Il a tué en série et il devait être exécuté. Mais donc, les autorités ont fait un arrangement avec lui. Ils ont changé sa peine de la peine capitale à la peine de prison à vie en échange pour une de ses mains. Donc on lui a amputé la main et on l'a greffée sur le président du pays. Et maintenant, ce président a une main dont les empreintes sont enregistrées, n'est-ce pas, chez la police, comme étant des empreintes de quelqu'un qui a tué plusieurs fois. Mais cette main, maintenant, fait des choses très honorables, signe les meilleures lois pour sauver la vie des gens, pour bénir le peuple. Et cette main, maintenant, participe dans toute la dignité et la bonté du président, alors qu'autrefois, c'était une main qui tuait. C'est un peu notre cas. Nous qui étions coupables et mauvais, nous avons été greffés sur Christ et maintenant nous participons à toute la dignité, la plénitude qui est en Christ. Je suis d'accord avec vous, graduellement et progressivement, Christ nous communique sa vie et nous conforme à sa personne. Et vous avez envie que ça aille plus vite comme moi, n'est-ce pas? S'il y a une telle plénitude, pourquoi est-ce que moi je lutte tant avec telle chose? Attendez seulement. Vous avez besoin que ça se passe comme cela. Parce qu'une grande partie de cette affaire, c'est que vous appreniez à quel point vous avez désespérément besoin de Jésus-Christ. Et vous n'appropriez Christ vraiment que dans la mesure où vous sentez le besoin de lui. Ça doit se passer comme ça. Donc Dieu vous fait grandir de plus en plus, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'en lui, vous êtes complet. Dans le Christ qui a toute plénitude, vous avez la plénitude. Vous êtes devenu une personne complète. Vous avez les ressources qu'il vous faut pour vivre la vie chrétienne et pour grandir. Vous n'avez pas besoin d'un secret que vous n'avez pas encore trouvé. Vous n'avez pas besoin d'un truc que les autres ont expérimenté. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Et vous avez besoin de le connaître, d'apprendre à vivre en union avec lui et de savoir tout ce qu'il est et tout ce qu'il a qui est maintenant à vous. Ça, c'est notre besoin le plus grand. Et je vous assure que ceux qui sont le plus proches à Jésus-Christ, dépendant de sa mort, sa résurrection, son intercession, sa parole, sa personne sont ceux qui grandissent le plus dans la sainteté. Maintenant, Paul va expliquer un peu, il va décliner un peu cette plénitude. Et moi, je ne vais pas tout faire avec vous, mais on va regarder pour terminer une partie. Cette plénitude de Christ que vous avez comprend trois choses dans ce passage. Premièrement, vous avez été libérés de la puissance du péché sur votre cœur. Avant, vous étiez comment? Le péché régnait dans votre cœur. Vous étiez dominé par cette mentalité. Qu'est-ce qu'il a dedans pour moi? Vous viviez selon cela. Votre cœur était tourné, incliné, penché vers vous-même et votre bonheur et votre gain avant toute autre chose. Et pas du tout tourné vers Dieu. Tourné vers plein de mauvaises choses. Le mensonge, l'immoralité, la convoitise, l'avarice, n'est-ce pas? La vengeance. Et la Bible dit que quand vous êtes devenu chrétien, si vous l'êtes, si vous êtes chrétien, eh bien, Dieu a changé l'inclinaison de votre cœur. Il a penché votre cœur vers Dieu et l'a détourné de ces choses-là, fondamentalement. Il y a des restes du péché en vous avec lesquels il faut lutter, mais le penchant fondamental a été radicalement changé en Christ et par Christ. Et nous voulons comprendre comment. Ok, donc nous lisons dans le verset 11 ceci. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair par la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est donc cette délivrance de la puissance du péché. Les deux autres choses qu'on ne va pas voir aujourd'hui, c'est que vous avez été délivré de la culpabilité du péché. Ça, c'est les versets 13 et 14, hein, le pardon. Et vous avez été délivré des puissances des ténèbres. Ça, c'est le verset 15. Donc, délivré du péché au-dedans, délivré de la culpabilité du péché qui vous séparait de Dieu, délivré des puissances des ténèbres en Christ. Maintenant, on va essayer de comprendre juste ces versets, donc 11 et 12, qui parlent de la circoncision et du baptême. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Alors, qu'est-ce que la circoncision? Dans l'Ancien Testament, vous savez que le bébé garçon doit se faire couper une partie de l'organe sexuel, huitième jour de sa vie. Et si on lit un peu plus loin dans la Bible, on découvre par exemple en Deutéronome 10, 16 que Dieu dit au peuple « circoncisez vos cœurs ». Alors, il nous donne un peu l'indice de ce que la circoncision du corps voulait dire. Ça symbolise qu'on est coupé de la nature pécheresse. D'accord? Par un rite sanguinaire, n'est-ce pas? Ça ne peut pas se passer sans la perte du sang. Et ça symbolise que le péché est arraché et je suis consacré à Dieu. C'est ça la signification symbolique de la circoncision. Alors, mais le texte nous dit que en lui, vous avez été circoncis. Mais quelle sorte de circoncision est-ce que vous avez eue? D'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une circoncision physique. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, vous avez été circoncis, mais vous avez la vraie réalité. Spirituellement, le péché a été enlevé de son trône. Il n'est plus président dans ta vie, même s'il est présent. D'accord? Regardez avec moi en Romains 2, et nous avons l'explication de cette circoncision spirituelle. Dans les deux derniers versets de Romains 9, Paul nous dit ceci. Le juif, c'est-à-dire le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences physiques. Et la circoncision, c'est-à-dire la vraie circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair, mais le juif, c'est-à-dire le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la vraie circoncision, c'est celle du cœur selon l'Esprit, l'Esprit Saint. Donc, la Bible nous enseigne que l'Esprit Saint, au moment de votre nouvelle naissance, il, comme j'ai dit, il enlève le péché en tant que président de votre cœur. Et donc, vous avez cette idée dans cette phrase, regardez bien, une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair. Le dépouillement, c'est un mot que utilisé seulement deux fois dans le Nouveau Testament, qui est un peu bizarre, qui veut dire arracher et mettre loin. Et probablement, il l'utilise parce que ça montre bien l'idée de la circoncision, n'est-ce pas? Et le corps de la chair, c'est une manière de parler de la nature pécheresse et qui a été dépouillée de votre vie. Je vais pas, j'ai encore plus de détails, mais j'ai déjà pris trop de temps. Je vais juste vous dire, et vous pouvez me poser des questions sur le texte plus tard si vous avez envie. Mais la circoncision de Christ, par la circoncision de Christ, il dit, ça s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire? La circoncision de Christ, ça veut dire une circoncision que Christ opère, oui, mais plus. Ça veut dire la circoncision que Christ a subie à la croix de Calvaire. Je ne peux pas vous montrer maintenant, mais en regardant l'autre utilisation de ce mot en Colossiens 3, 9, et en le comparant avec Romains 6, il devient clair que lorsque Christ est le rite sanguinaire qui vous délivre du péché, ce n'est pas un rite chez vous, mais c'est lui qui souffre à la croix. Et quand il est considéré comme le pécheur à la croix, son corps est considéré comme le corps de la chair, le corps du péché, comme le corps collectif de tout le péché du monde. Et Dieu l'arrache et il fait ressusciter Christ avec un corps glorifié et transformé. Et donc Jésus, ton cher sauveur, il doit souffrir et subir en lui-même ce qu'il vous faut. Le Christ ne peut pas vous donner ce dépouillement de la chair à moins qu'il le subisse et possède lui-même. Christ ne vous donne jamais quelque chose qu'il ne possède pas dans sa propre humanité. Il le gagne pour lui-même, et puis il vous joint à lui et vous y participez. Donc la vraie circoncision, c'est Christ à la croix qui meurt, non seulement pour votre culpabilité, pour payer la peine, mais aussi pour éradiquer la puissance du péché de votre vie. C'est formidable, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a fait pour nous. Lui, il a fait, tout seul. N'allez pas vers tel système. Il fallait une croix, il fallait une sauveur qui gémit et qui meurt et qui pleure et qui saigne sur une croix pour que vous soyez dépouillés du péché de votre vie. Ce n'est pas un système qui ferait ça. C'est le Christ dans son triomphe sur le péché. La dernière chose qu'il faut dire, c'est que Paul va changer d'image. Et ayant parlé de cet enlèvement du vieil homme, de la mauvaise nature de vous, par l'image de la circoncision, il va maintenant en parler par l'image de quoi? Du baptême. Regardez bien. Il dit, à la fin du verset 11, donc, dépouillement du corps de la chair par la circoncision de Christ, enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Pourquoi tu changes de métaphore, Paul? Parce que ce que Dieu a symbolisé d'une manière dans l'Ancien Testament, il symbolise d'une autre manière dans le Nouveau, et pour bonne cause. Dans la circoncision, ce symbole met l'accent sur quoi? C'est un peu dur, n'est-ce pas, la circoncision? Ça met l'accent sur le jugement sur le péché, parce que couper, saigner, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et le baptême, quand tu regardes le baptême de quelqu'un, ça met l'accent. C'est la même chose, parce que quand quelqu'un va sous l'eau et puis se relève, parce que normalement le vrai baptême c'est l'immersion, d'accord? On s'évélie avec lui. On n'est pas enseveli sur des gouttes d'eau, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on est immersé, on a l'image que Paul décrit ici, hein? On s'évélie avec lui par le baptême. Et vous voyez la personne qui ressuscite, vous avez un ensevelissement et une résurrection dans le baptême. Chaque fois que vous voyez quelqu'un baptisé, quelqu'un meurt, l'ancienne personne meurt, la nature pécheresse meurt et reste dans le tombeau, et une nouvelle personne se lève, mais avec cette différence. L'accent dans l'image que vous voyez n'est pas sur le sang et la destruction, le jugement, mais sur la purification et la résurrection. N'est-ce pas? Les deux images parlent du même chose, mais de deux points de vue très différents, n'est-ce pas? Du point de vue de la loi, jugement, du point de vue de la grâce, purification et pardon. Ça va? Maintenant, le tout dernier détail qu'il faut voir, c'est que quand Paul nous parle cet enlèvement de la nature pécheresse par la voie du baptême, il nous montre que les sujets du baptême ne sont pas les mêmes que les sujets de la circoncision. Dans la circoncision, tout le peuple juif est circoncis. Ceux qui se convertissent et ceux qui ne se convertissent jamais, ils sont tous circoncis. Il suffit que tu sois fils d'un juif, ça te vaut la circoncision. Et dans certaines églises, on enseigne que puisqu'il en est ainsi de la circoncision, il en est ainsi du baptême. Mais dans ce passage, Paul dit autre chose. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit aux chrétiens de Colosse, à qui il s'adresse, ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Paul dit que la circoncision physique, écoutez bien, la circoncision physique symbolise une circoncision spirituelle, c'est-à-dire la nouvelle naissance. OK? Il dit que le baptême aussi, pardon, symbolise la nouvelle naissance. D'accord? Donc, la circoncision ne symbolise pas le baptême. La circoncision n'est pas liée directement au baptême. La circoncision parle de la circoncision spirituelle qui est la nouvelle naissance. Et le baptême parle de la même chose. Ils sont indirectement liés. Circoncision et baptême symbolise une même réalité spirituelle. Mais dans l'Ancien Testament, tu n'es pas obligé d'être né de nouveau pour être circoncis. Le symbole est là, mais pas la réalité parfois. Mais dans le Nouveau Testament, Paul dit aux chrétiens ici, il dit, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main d'homme. Vous avez été né de nouveau, vous. Et il dit, ceci est démontré dans le baptême qui dit à tous ceux qui regardent que vous avez été ensevelis avec Christ, mais réellement, et ressuscité avec lui en tant que nouvelle personne, par la foi en la puissance de Dieu. Vous voyez? Dans ce texte, Paul lie le baptême à la foi. C'est pas moi. C'est le texte biblique qui dit dans le contexte du baptême que, regardez bien le texte, enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité avec lui et en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Alors, lorsque quelqu'un se relève de l'eau, du baptême, cela est en train de nous donner une image de sa foi dans le Dieu qui a ressuscité le Christ. En Christ, je ressuscite. Pourquoi est-ce que je suis en Christ? Parce que j'ai cru. Parce que j'ai cru. C'est pour cela qu'en Romains 6, si vous voulez juste regarder un verset de confirmation, que je ne suis pas en train de mettre une interprétation partisane sur cela, nous lisons dans le verset 3 ceci. Je vais remonter au verset 2. Certes, non, nous qui sommes morts au péché, c'est seulement la personne qui est née de nouveau, hein, qui est mort au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous tous qui avons été baptisés, nous avons vraiment été unis, participé à sa mort sur le péché, nous sommes morts au péché. Mais si vous baptisez des nouveaux-nés, ce n'est pas vrai à leur sujet. Il est extrêmement rare pour moi d'aller sur un point comme ça, et ce n'est pas un enseignement complet sur le baptême, mais simplement, je voulais vous montrer que le baptême parle. Le baptême parle de quelque chose, selon le texte, qui s'est passé en ceux qui se sont fait baptiser et qui ont la foi en celui qui a ressuscité Dieu d'entre les morts. Ce qu'il faut que nous retenions ce matin, c'est qu'en Jésus-Christ, quelle que soit notre perspective sur le baptême, parce qu'il y a des bons chrétiens des deux côtés de cette affaire, en Jésus-Christ, nous avons toute la plénitude de Dieu, mais à un grand prix, au prix de la croix, de la circoncision de Christ. Et nous devons nous considérer comme des hommes et des femmes, si nous croyons, qui ont été libérés du règne du péché. Comptez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. Parce que c'est la réalité, et en comptant là-dessus, vous allez vivre cette identité nouvelle qui est à vous. Gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et le reste, le pardon et la délivrance des puissances spirituelles des ténèbres, nous verrons la prochaine fois. Nous allons chanter un chant qui parle du fait que nous avons toute la plénitude en Christ. Excusez-moi pour la longueur ce matin, c'était un peu technique. Et je...